Bintiminoudi, l'émission politique d'RCFM, Patrick Vinciguerre.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Bintiminoudi avec ce soir comme invité José Rossi. José Rossi, bonsoir.
Bonsoir.
Après avoir effectué un retour en politique en 2015 en conduisant une des deux listes droites au territorial, vous avez à nouveau pris vos distances avec la politique. Vous êtes, je le rappelle, ancien ministre, ancien député, ancien président de l'Assemblée de Corse. Quel regard portez-vous sur un paysage politique complètement chamboulé depuis votre retraite, avec l'éclatement notamment du clivage gauche-droite? Au menu de ce Bintiminoudi, dit donc, la collectivité de Corse, devenue collectivité unique au 1er janvier 2018. Comment jugez-vous la gestion nationaliste et l'opposition dans tout ça, notamment de droite, joue-t-elle pleinement son rôle? Et puis au plan national, la crise des gilets jaunes qui de samedi en samedi s'éternise, que dit-elle de notre société? Avec le lancement du grand débat, Emmanuel Macron a-t-il trouvé une porte de sortie? En tout cas, il retrouve des couleurs, le grand débat. José Rossi, c'est cette semaine le dossier de Bintiminoudi.
Bintiminoudi, le dossier.
Si sur le reste du territoire, le grand débat voulu par Emmanuel Macron est considéré comme un succès, plus de 600 000 contributions sur la plateforme internet du gouvernement, des milliers de réunions aux quatre coins de la France, en Corse, c'est loin, très loin d'être le cas. Peu de monde en effet à Bonifacio, peu de monde aussi à Ajaccio. Seulement 5 personnes présentes vendredi dernier à la maison de quartier des Cannes, mise à disposition par la mairie. Une simple question de réglage pour Gilles Roppers, l'animateur bénévole de cette mini-réunion publique.
Je pense que c'était un galop d'essai aussi et qu'il faut un peu mieux formaliser ça, il faut peut-être mieux communiquer et qu'il faut que les gens se l'approprient et soient intéressés et je pense que c'est faisable.
Autre explication, l'échec de ce premier débat ajaccien, le mauvais temps, avance François Filogne, le conseiller municipal qui considère malgré tout que c'était utile.
Il n'y avait pas grand monde, mais il y avait de la qualité dans le débat et des vraies questions sociétales qui sont posées, telles que l'indexation des retraites, la paupérisation.
Davantage de monde en revanche à Linguitset, à petite commune du rural. Une quarantaine de personnes ont répondu à l'invitation du maire Séverin Médor, au final plutôt satisfait de l'exercice.
Je pense que la France se délite et qu'il y a besoin que la population se rencontre. C'est toujours mieux que la confrontation. Et j'avais invité, je les remercie d'être venus, des gilets jaunes qui sont venus de Porto-Vec. J'avais invité La République En Marche qui a envoyé un représentant. Chacun a pu débattre très calmement, très sereinement, confronter des positions, confronter des points de vue. Ça s'est très bien passé et c'est pour ça que nous renouvellerons l'opération très bientôt.
D'autres débats sont également prévus ce soir à Pietrosé, là ce week-end dans le Cap Corse. C'est très bien, se réjouit Nathalie qui a participé au débat ajaccien, mais le plus important selon elle est ce qu'il en ressortira, que les propositions faites ne restent pas lettre morte.
Je crois que c'est très important quand on donne l'occasion aux citoyens de s'exprimer, qu'ils la saisissent. J'espère également que les propositions qui seront faites à la fois lors des débats et sur les sites remonteront, mais pas simplement remonter, parce que il faut que ça serve à quelque chose.
C'est évidemment la question que tout le monde se pose. Que deviendront les propositions, les doléances qui émergeront de ce grand débat prévu pour durer jusqu'à la mi-mars? Emmanuel Macron n'écarte pas la possibilité d'un recours au référendum.
Bintiminoudi, Patrick Vinciguerre.
Avec ce soir comme invité José Rossi. José Rossi, le grand débat se poursuit. Emmanuel Macron d'ailleurs échange en ce moment avec un millier de jeunes à Autun. Débattre, c'est bien, mais est-ce que cela permettra de sortir de la crise? Et surtout, comment, sous quelle forme?
Je crois que la première préoccupation d'Emmanuel Macron, c'était d'abord de relancer son action, car on a eu le sentiment largement partagé d'ailleurs, au-delà des clivages politiques, qu'il était tétanisé au mois de décembre. Et pour le président de la République, c'est dramatique. S'il n'est plus en situation de gouverner, de sortir de l'Élysée, les choses ne peuvent plus aller. Donc il a choisi la manière...
On le disait bunkérisé.
Il était bunkérisé, c'est tout à fait ça. Il a choisi la manière de se relancer lui-même pour pouvoir continuer à gouverner notre pays. Il est élu pour 5 ans. Il n'est pas question qu'il démissionne. Le slogan Macron démission, bon, c'est bien dans les manifestations, mais il est élu démocratiquement pour 5 ans. Et il vaut mieux un président qui gouverne, même si on est contestataire par rapport à ses positions qu'un président inerte. Donc je pense que le choix du grand débat est un bon choix. Après, ce qui en sortira, il ne va pas en sortir la lune. Nous ne nous faisons pas d'illusions.
Est-ce que ça ne risque pas de se transformer en piège, ce grand débat, si aucune mesure au terme de ce débat qui devrait durer jusqu'à la mi-mars, si aucune mesure concrète n'en ressort?
Écoutez, les gilets jaunes ne sont manifestement pas une force alternative au gouvernement. Donc leur rôle aujourd'hui, c'est un rôle d'aiguillon. Ils soulèvent des problèmes, ils mettent l'accent sur les difficultés qui sont celles des plus pauvres et des plus déshérités dans notre pays. Et ils essayent d'avancer des solutions qui, le plus souvent, ne tiennent pas la route en termes de financement et de moyens. Mais il n'empêche que le phare mis sur les difficultés va obliger les gouvernants, quels qu'ils soient, à prendre beaucoup plus en considération ce type de situation et à ne pas miser uniquement sur le dynamisme économique qui, pour l'instant, d'ailleurs, reste très fragile.
Mais quelle réponse à apporter? On répond au plan institutionnel, on répond au plan économique, social, et sous quelle forme? Un référendum, des lois?
Non, je crois que la préoccupation des gilets jaunes, manifestement, mais au-delà des gilets jaunes, sans doute de l'opinion française dans son ensemble, c'est d'avoir un système démocratique plus ouvert, plus transparent et plus sensible à ce qui se dit sur le terrain. Donc il y a un appel au terrain, il y a un appel, je ne dis pas à la décentralisation, une vague de décentralisation, mais à la prise en considération de ce pense à la fois les élus et les citoyens. Et pour cela, il faudra, aussi bien dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie que des réponses démocratiques, il faudra soit des lois qui interviendront sur un certain temps, soit des règlements qui peuvent être faits beaucoup plus rapidement par le gouvernement, celui-là ou un autre, si un jour Monsieur Philippe partait pour d'autres cieux et qu'on avait un nouveau Premier ministre, mais Monsieur Philippe lui-même peut le faire. Et puis il peut y avoir sur tel ou tel sujet un référendum. Par contre, je crois peu à ce référendum style QCM, couplé avec les européennes. Les Français ont pour une fois besoin d'un vrai débat européen. À un moment où l'Europe est en crise et occulter le débat européen. Mais là, aujourd'hui, il semble que tout le monde soit à peu près d'accord.
Cette hypothèse semble écartée.
Pas de jumelage entre le référendum et les élections européennes. Après, la forme du référendum, le contenu du référendum, on verra à la fin du grand débat.
José Rossi, vous avez eu de nombreux mandats politiques durant de longues années, président de l'Assemblée de Corse, on l'a dit, président du Conseil général de la Corse du Sud, député, ministre. Cette crise des gilets jaunes, l'aviez-vous vu venir? Était-elle seulement prévisible?
Écoutez, d'abord, que l'on se rassure, je ne reviens pas en politique. Je joue le commentateur aujourd'hui, comme font certains politiques qui ont quitté les affaires, parce que je reste passionné par la
chose
publique.
Mais votre regard est d'autant plus intéressant.
Et je suis un simple citoyen qui a une expérience. Et effectivement, je pense que ce qui vient de se passer n'était pas prévisible dans la forme où les choses se produisent. Mais on sentait monter depuis longtemps une sorte de goulot d'étranglement, parce qu'on voit bien que les moyens de l'État se réduisent. L'État n'a plus les moyens de transformer fondamentalement les choses. Il faut qu'il fasse des économies, il ne les fait pas. La fiscalité continue à augmenter. La compétition internationale et la compétition entre les entreprises rend les choses de plus en plus difficiles, à la fois pour les citoyens et pour les entreprises. Donc elle arrive à un moment où les plus pauvres, les plus démunis subissent de plein fouet le choc, et non seulement les plus démunis, mais les classes moyennes qui constituent la majorité de notre pays. Donc ça a pris une certaine forme, mais il fallait que les choses bougent, et de ce point de vue-là, on a le sentiment que malgré le caractère brillant du président de la République, il devenait un peu sourd à la société française, et il y a des choses que manifestement il ne voyait pas. Là, il retourne sur le terrain, et il écoute les gens. Bon, il fait son show, certes, mais en même temps, il entend des choses qu'il n'avait pas l'habitude d'entendre au quotidien.
Oui, mais pourquoi cette crise est survenue aujourd'hui ou pas? Par exemple, dans les années 90, c'était une époque où vous étiez ministre, où les inégalités n'étaient pas moindres. On se souvient, par exemple, que Jacques Chirac avait été élu en 1995 sur le thème de la fracture sociale.
Oui, mais à l'époque, il y avait des partis qui tenaient encore la route, il y avait un encadrement politique beaucoup plus important, il y avait des syndicats qui étaient plus organisés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et il y avait des élus locaux et des responsables locaux, régionaux, départementaux, municipaux, qui étaient sans doute plus respectés qu'ils ne l'ont été au cours des dernières années par le pouvoir central. Et la tendance du pouvoir central a été de tout ramener à des politiques macroéconomiques dans la compétition européenne, dans la construction européenne et dans la compétition mondiale. Et on a oublié tout simplement les citoyens. Et donc ça a pris cette forme. C'est le moment où la cristallisation s'est produite. Ça aurait pu se produire à un autre moment. Mais bon, le détonateur a été la taxe sur les carburants. Ça aurait pu être autre chose.
Il n'y a plus de parti aujourd'hui en mesure de répondre à cette attente, on le sent bien, parce qu'on s'en prend au président, mais les Gilets jaunes ne se portent pas non plus du côté de la France insoumise, peut-être un peu plus du Rassemblement national d'ailleurs.
Le président de la République a capté l'essentiel du centre-droit et du centre-gauche, et face à lui, il y a Marine Le Pen qui...
Il y a une bipolarisation aujourd'hui encore de la vie politique.
À représenter un choix que ne veulent pas pour l'instant une majorité de Français. Et donc tout naturellement, le catalyseur de ceux qui ne veulent pas, comme l'élection présidentielle de Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. Et on risque d'assister à une marginalisation de plus en plus importante des partis.
C'est assez paradoxal, puisqu'au terme presque, enfin alors qu'elle continue cette crise des Gilets jaunes, on se retrouve aujourd'hui avec Emmanuel Macron face à Marine Le Pen.
Sauf qu'Emmanuel Macron n'a pas encore réussi à constituer un vrai parti qui le soutienne sur le terrain, qui ait des élus représentatifs.
Il n'a pas de relais.
Et qui tiennent le terrain. Et donc sa popularité, sa crédibilité face à Marine Le Pen peut être très fragile.
José Rossi, vous l'avez évoqué, la démocratie représentative aujourd'hui, selon vous, est fragilisée ?
Je crois qu'elle est incontestablement fragilisée et il faut sans doute changer les règles du jeu. Je ne suis pas un soutien de Marine Le Pen, mais je pense que l'idée de la proportionnelle aujourd'hui s'impose. Bon, avec une dose plus ou moins importante, la plus importante possible
pas,
pour moi.
Pas intégrale comme le réclame le RN.
Ça suppose aussi que les partis traditionnels étant marginalisés, ils puissent néanmoins être représentés au niveau qui est celui de la confiance qui leur est accordée par l'opinion. Car si on votait demain sur la base des sondages que l'on vient de publier, la droite et la gauche seraient rayées de la carte et on n'aurait plus que Macron et Marine Le Pen, ce qui serait très négatif. Donc je crois qu'il faut aller vers la proportionnelle, plus de proportionnelle aussi bien au plan national qu'au plan local. Et en même temps... Imaginez qu'il puisse y avoir demain des majorités de coalition. Bon, c'est une chose à laquelle j'ai toujours rêvé pour la Corse et je pense qu'aujourd'hui les nationalistes qui gouvernent de manière majoritaire tout seuls vont se rendre compte très rapidement qu'une majorité homogène est un fardeau à porter.
20 minutes, l'émission politique.
Alors, justement, vous avez fait la transition, José Rossi. Venons-en aux affaires, je dirais, Corse-au-Corse. Vous avez quitté l'Assemblée territoriale il y a un peu plus d'un an, avant le passage à la collectivité unique. Un passage réussi, selon vous ?
Écoutez, j'ai joué un rôle d'opposition. Nous étions déjà une minorité, mais les nationalistes n'avaient pas la majorité
opposition
absolue.
Opposition au nationalisme, mais pas opposition à la collectivité unique, pour préciser les choses.
Non, j'ai toujours été favorable à la fois à un pouvoir très décentralisé et à un rassemblement des moyens dans une seule collectivité, parce que la Corse n'est pas très grande malgré tout par rapport aux autres régions. Et je pense que cette collectivité unique impose des devoirs aujourd'hui à la majorité et à l'opposition, et impose de faire des économies, d'améliorer la qualité de la gestion, de supprimer progressivement la balkanisation, l'éclatement du pouvoir, pour que le président d'exécutif soit un vrai patron, ce qui peut être mis en doute aujourd'hui, dans la mesure où la balkanisation et l'éclatement du pouvoir n'a jamais été aussi important.
On va y venir, mais pour rester un instant sur le passage à la collectivité unique, à laquelle vous avez toujours été favorable, la Corse s'en porte mieux aujourd'hui ?
Pour l'instant, non. Beaucoup de dossiers sont en panne, mais ça, c'est la qualité de la gestion de ceux qui sont aux responsabilités. Bon, ils ont mis l'accent sur une seule revendication institutionnelle au départ, dans un bras de fer avec l'État. Ce n'était manifestement pas la priorité. La priorité, c'était de construire une collectivité unique qui marche, qui soit efficace et qui produise ses premiers résultats. Ensuite, sur le thème de l'autonomie, moi, je n'ai jamais été hostile à l'idée de l'autonomie de la Corse dans la République. Mais il faut abandonner clairement l'idée indépendantiste, et il faut que cette idée d'autonomie, si elle progresse, que ce soit sur le plan fiscal ou sur le plan institutionnel, soit une idée qui soit partagée par l'immense majorité de la population. Et M. Siméoni devrait s'inspirer de ce que fait M. Macron au plan national et retourner vers le terrain en consultant tous ceux qui peuvent l'être, qu'ils soient dans la majorité, dans l'opposition, qu'ils soient syndicalistes STC ou d'autres obédiences, bref, que ce soit le peuple corse au bon sens du terme qui soit présent dans les propositions, et si demain il y avait une évolution institutionnelle de cette nature, pourquoi pas.
Donc un grand débat corse autour de l'avenir institutionnel de l'île.
Pas seulement, d'abord de l'avenir économique et social, car avant de changer les institutions une nouvelle fois, il faut produire de la croissance, il faut produire des emplois, faire reculer le chômage et faire en sorte que les jeunes que l'on forme à l'université puissent avoir l'espoir de travailler dignement en Corse quand ils le veulent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On forme beaucoup de gens qui n'auront pas d'emploi en Corse.
Justement, au-delà de la question institutionnelle, comment jugez-vous la gestion nationaliste depuis un peu plus de 3 ans passée à la tête de la collectivité de Corse? Ont-ils changé les nationalistes la façon de gouverner? Surtout, ont-ils transformé la Corse?
Absolument pas. Bon, ils tombent dans le train-train de l'administration quotidienne, avec une administration considérable, je serais tenté de dire pléthorique, d'autant plus que les 2 départements se sont ajoutés à la fonction publique régionale. Et aujourd'hui, les rapports qui sont soumis de manière rituelle à l'Assemblée de Corse, en dehors des initiatives parfois intempestives, et qui ont du panache de M. Talamone, et, bon, on ne voit pas de grands projets qui soient sortis des rapports de l'Assemblée de Corse. La seule chose qui est un peu bougée, c'est les transports, mais c'est très contrasté et très discuté. Bon, après, le reste, je ne vais pas parler encore des ordures et de tous les sujets que l'on connaît, mais on n'a pas le sentiment que la Corse a pris un nouveau rythme en termes de développement économique et de croissance. On met des rustines, on aide ceux qui sont en difficulté, il faut sans doute le faire, mais le véritable choix, c'est celui qui est inscrit dans le PADUC. Est-ce qu'on veut une Corse qui reste repliée sur elle-même, ou est-ce qu'on veut une Corse dans un monde ouvert et dans une Europe ouverte, une Corse qui progresse? Et là, il y a un choix idéologique qui est important et qui ne sera pas fait si tôt.
Est-ce que vous partagez la sévérité de certains de vos amis qui disent que, en fait, la gestion nationaliste se limite à des symboles et à de la com?
Il n'y a pas que ça. Bon, je crois qu'ils essayent de bien faire, mais il y a beaucoup de symboles et de com, mais ils n'ont pas intégré, je crois, la réalité des enjeux. Et je pense que, quelle que soit la majorité qui gouverne aujourd'hui, majorité nationaliste, ou s'il y avait une autre majorité demain, je crois qu'il faut que les oppositions soient associées, non pas à l'exécutif, mais à la gestion des grands choix, aux grands choix. Je pense que la Corse n'a avancé, par exemple, dans le processus de Matignon, que lorsque j'ai fait le choix de dialoguer d'abord avec Lionel Jospin, de ne pas m'appuyer seulement sur la majorité régionale, mais d'avoir une quasi-unanimité à l'Assemblée de Corse pour porter les accords de Matignon. Eh bien, je crois que demain, les nationalistes doivent aller chercher l'opposition pour les associer au grand choix, alors que, bon, on les traite un peu avec commisération aujourd'hui.
Alors, vous venez d'en parler de l'opposition, notamment celle de droite. Votre camp est-elle à la hauteur? Est-elle suffisamment offensive? On a le sentiment qu'elle a beaucoup de mal à occuper le terrain.
Je crois que le problème de la droite et du centre-gauche, la gauche sont dépassés. Le jacobisme a vécu. Bon, la droite rocasseriste a vécu. Je pense qu'on est dans un schéma où la ligne de partage sur les choix corse, au fond, sur le développement économique et social, on devrait faire à peu près les mêmes choix si on y travaillait ensemble. Donc la ligne de partage, c'est ceux qui veulent rester clairement dans la République et ceux qui pensent à l'indépendance, soit qu'ils affichent leur indépendantisme, soit qu'ils parlent d'autodétermination. Bon, si le choix est de rester dans la République, il n'y a plus de véritable frontière pour défendre les intérêts de la Corse, mais pour cela...
Mais il y a quand même la place pour une opposition au sein d'une collectivité.
Il faut une opposition, mais vous pouvez avoir des oppositions qui, face à des majorités absolues qui n'existent plus, font partie d'une coalition et sont associées aux responsabilités. M. Siméon, il a bien fait à Bastia pour gagner la municipalité de Bastia. Eh bien, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire à la région. Donc, il faut que l'opposition continue à s'affirmer, à progresser, à mettre en minorité sans doute M. Siméon à la prochaine élection régionale, peut-être pas à servir de force alternative, il faudra sans doute un peu plus de temps, et s'il n'y a pas de majorité absolue, eh bien c'est là qu'on commence à discuter et à avancer.
José Rossi, une reconquête vous semble possible en 2021?
Ça va être difficile. Bon, je pense que les nationalistes vont nous expliquer qu'ils n'ont pas eu assez de temps parce qu'il ne se sera pas passé grand-chose d'ici 2021 et qu'il leur faut une autre mandature. Et l'opposition, elle a besoin de s'unir pour avoir une liste très forte, non seulement entre M. Mondolone et Valérie Boz ou ceux qui succéderont à ceux qui dirigent aujourd'hui, mais également le centre-gauche qui aujourd'hui est orphelin et qui reste très républicain. Donc je crois que du côté des macronistes, il y a de ce point de vue une réflexion à avoir. Et si on veut avoir une force alternative, c'est pas l'association de ceux qui veulent s'unir pour battre les nationalistes. Non, il faut que ceux qui partagent la même conviction républicaine et les mêmes choix politiques et économiques pour la Corse soient capables de constituer une force alternative à la majorité actuelle.
Une grande coalition.
Et si demain, il n'y avait pas de majorité absolue, et si M. Simeone continuait à avoir la force politique la plus importante, pourquoi pas imaginer une coalition. Mais ça, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est évidemment d'avoir une force alternative qui soit crédible, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui.
Avant les territoriales de 2021, il y aura les municipales de 2020. Vous serez derrière Laurent Marcangeli et Ajaccio ?
Tout à fait, parce que bon, même si je ne suis plus engagé sur le plan partisan, je reste convaincu des choix idéologiques de ma famille politique, qui est une famille modérée de centre-droit. Et si cette famille modérée disparaissait complètement de la carte, la Corse serait totalement nationaliste. Je pense que ça ne serait pas une bonne chose pour la Corse. Et pour l'avenir de la Corse, je crois que les grandes familles politiques doivent rester présentes, quel que soit celui ou celle qui gouverne la Corse en première ligne.
Laurent Marcangeli ne devrait-il pas s'engager à son tour pour les territoriales de 2021? Il ne l'avait pas fait en 2015, il vous avait cédé la place pour conduire la liste. Est-ce que cette fois-ci, il faudrait qu'il y aille?
Je pense qu'il fallait qu'il se consacre totalement à sa municipalité. Il a eu raison de le faire. Il a récidivé 2 ans plus tard. Mais son objectif et sa priorité, c'est manifestement de gagner les municipales et de réussir à conduire les projets qu'il a initiés pendant cette première mandature. Et c'est bien que l'Ajaccio dispose d'un maire jeune qui sait porter des projets, qui a l'écoute du côté du gouvernement et qui est capable de concrétiser ce qu'il a engagé.
Dernière question, José Ross, vous avez quitté la politique il y a 1 an, vous n'envisagez pas de retour, ça ne vous démange pas?
Très clairement non, par contre je reste tout à fait passionné pour exprimer mon point de vue sur un certain nombre de choses dans l'esprit du commentateur averti, pas dans le style Roselyne Bachelot qui rejoint les rangs de la presse, mais chaque fois que vous m'inviterez pour parler politique, économie ou autre, je serai présent et il m'arrivera de dire quelques gros mots ou de m'exprimer de manière plus libre que je ne l'aurais fait quand j'étais en politique.
Et c'est ce que vous avez fait ce soir, José Rossi. Merci d'avoir été notre invité.
Merci à vous.
RCFM, 20 minutes, l'émission politique.
Binti Minoudi avec José Ross, c'est terminé. Une émission à écouter ou à réécouter sur notre site bleu rcfm.fr. La semaine prochaine, même jour, même heure, Xavier Luciani, conseiller exécutif en charge de la langue corse, président de l'Office hydraulique de la Corse.